10h43 minutes. Hier, j'ai vécu quelque chose que j'avais pas vécu encore depuis le couvre-feu. À 7h59 hier soir, j'ai dit à mon fils, Marc-Édouard, viens t'en dans la maison, c'est le couvre-feu. Ça m'a fait bizarre parce qu'à 7h59, il est encore dans la rue en train de tirer des ballons dans son panier de basket. Ça m'était pas arrivé encore. Tu sais, quand c'est dans les dernières semaines, il rentrait un petit peu plus tôt, mais hier, j'ai vraiment été obligé de dire, gars, c'est fini, c'est le couvre-feu, tu t'en vis. C'est pas le fun, pareil. C'est pas nécessairement très, 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 très agréable. On va aller voir ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a un procès important qui est près d'un dénouement. C'est le procès de Derek Chauvin, le policier. Vous vous rappelez qu'il a été accusé d'avoir causé la mort de George Floyd l'été dernier, le printemps dernier, je devrais dire, donc à Minneapolis, au Minnesota. Les jurés sont en train de délibérer depuis hier soir, puis vous savez que ça se déroule sous haute tension. On craint des débordements, peu importe le verdict. On va aller en parler avec notre collègue expert en politique américaine, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut, Raph!
Bon matin, messieurs.
Raph, dis-nous ce qui se passe actuellement. Il n'y a toujours pas de verdict qui a été rendu, mais le jury délibère. Dresse-nous un portrait de la situation actuelle là-dessus.
Ben, commençons peut-être avec les chefs d'accusation. Parce que ça a l'air de rien, ça fait un mois qu'à chaque semaine, on se parle de ce procès-là. C'est peut-être bon peut-être commencer aujourd'hui en récapitulant que Derek Chauvin est donc accusé de trois choses, trois chefs d'accusation principaux. Homicide involontaire, meurtre au deuxième et meurtre au troisième degré. Puis, je le mentionne parce qu'il y a une distinction qui est hyper importante entre la loi au Minnesota puis la loi dans bien d'autres juridictions aux États-Unis sur la différence entre meurtre et homicide involontaire. C'est-à-dire que je pense que si je vous demandais, là, comme ça, la brûle pour point, c'est quoi la différence entre les deux, vous seriez probablement tenté de me dire c'est au niveau de l'intention. C'est-à-dire que la différence entre un homicide involontaire puis un meurtre, mais c'est que dans le cas du meurtre, la personne, l'accusé, a voulu délibérément tuer la victime. Et donc, dans bien des cas, dans bien des endroits, c'est ça. C'est pas le cas au Minnesota. Autrement dit, pour faire condamner Derek Chauvin de meurtre, les procureurs n'ont même pas à convaincre le jury que Chauvin voulait tuer George Floyd. On n'a pas à prouver l'intention. On a juste à prouver essentiellement qu'il a fait preuve d'un manque de considération presque dépravé là, à l'endroit de la vie humaine. Donc, autrement dit, je suis en train de faire une prédiction et vous dire qu'il va être condamné de meurtre. L'accusation de meurtre au deuxième degré reste de loin la plus difficile à prouver. En même temps, même si le fardeau est sur les épaules des procureurs, ce fardeau-là, il est peut-être moins lourd parce que ce procès-là a lieu à Minneapolis qu'il serait s'il avait eu lieu ailleurs. Fait que ça, je pense que ça mérite d'être dit d'emblée. Une fois que c'est dit, personne donc peut prédire quelle barre ça va prendre cette affaire-là. Mais il y a ceci qu'on sait. T'sais, Jérôme, tu parlais de haute tension. La ville de Minneapolis, là, elle est essentiellement barricadée. Là. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Puis ça, c'est l'épicentre. Mais la réalité, c'est que ça a tellement des implications qui vont au-delà de la ville et de l'État que juste dans les dernières heures, t'as Los Angeles, New York, Atlanta, Philadelphie, toutes des villes où les services de police ont déclaré officiellement là, qu'ils étaient déjà en train de préparer des plans pour faire face à d'éventuels débordements dépendant du verdict qu'on donne. Fait que c'est haute tension et c'est extrêmement attendu. Là.
Je veux revenir sur un élément qui a marqué la fin du procès, parce qu'on avait fait le point il y a quoi, une dizaine de jours ensemble. Oui. Et c'est l'occasion, je pense, Raphaël, de faire aussi un peu de pédagogie là, sur le système de justice américain. Et c'est le fameux cinquième amendement, Invoking the Fifth Amendment. On voit ça souvent dans des séries télé, dans des films. C'est drôle, j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce d'odeur d'aveu de culpabilité quand on invoque le cinquième amendement qui fait en sorte qu'on n'a pas à témoigner, à répondre aux questions. Parle-nous du cinquième amendement et de comment ça s'est présenté dans ce procès-là.
Ouais, c'est une super bonne question parce que je suis 100% d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a une perception populaire qui remonte à très longtemps que quand tu invoques cet amendement-là, c'est parce que
tu as quelque chose à
te reprocher. Donc, c'est un amendement constitutionnel qui remonte pratiquement au tout début de la République, là, qui remonte à peu près 200 ans, un peu plus de 200 ans, qui stipule que si tu penses qu'en témoignant, tu as des risques de t'auto-incriminer, si on veut, là, de t'incriminer toi-même, tu peux refuser de témoigner ou de répondre à des questions. Et c'est exactement ce que Derek Chauvin a fait la semaine dernière. Et où c'est intéressant, spécifiquement dans le contexte de ce procès-là, c'est que, tu sais, mine de rien, ce type-là a, et je le dis pas de façon positive, évidemment, là, mais a une espèce de notoriété presque mondiale là, depuis un an. Qui n'a pas entendu parler de ce bonhomme-là? Les noms Derek Chauvin et George Floyd sont devenus des noms hyper connus. Et pourtant, ça fait un an qu'on ne l'a essentiellement jamais entendu. On ne l'a jamais entendu donner sa version des faits, essayer même de clamer son innocence, peu importe. Et là, à la toute fin du procès la semaine dernière, dans les tout derniers jours de témoignage, il avait l'occasion, pour la toute première fois, de se défendre à son propre procès. Et le calcul stratégique qui a été fait par lui, par son avocat, ça a été de se dire que le risque d'exposer Derek Chauvin à un contre-interrogatoire des procureurs, ça pesait plus dans la balance que le bénéfice de l'entendre pouvoir se défendre pour la première fois en un an. Tu sais, c'est quand même assez remarquable. Fait que, tu sais, je dirais que ça va probablement, ça aussi, dans ton sens. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il est coupable, ça veut pas dire qu'il va être reconnu coupable. Mais ça dit quand même quelque chose qu'il soit passé par au-dessus de cette opportunité unique-là de se faire entendre. C'est assez remarquable, effectivement, en soi.
Hey, Raphaël, avant de se laisser, peut-être quelques mots sur Matthew McConaughey, l'acteur bien connu, celui qui fait des pubs de Lincoln aussi à la télé, très connu.
Pubs philosophiques de Charles.
Oui, philosophiques, beaucoup de notoriété. Puis on a déjà parlé de sa possible carrière politique, puis ça a l'air de vouloir avoir de l'attraction, ça, cette possibilité-là.
À un point tel, Jérôme, que là, va peut-être falloir que vous changiez votre temps de verbe quand vous dites qu'il fait des pubs de char. Ouais. Peut-être qu'on va devoir commencer à dire qu'il faisait des pubs de char.
OK.
Parce que, écoute, là aussi, j'aurais pas de prédiction, mais je vais vous dire ceci. On s'en parlait, c'est quoi? Ça fait à peu près un ou deux mois, puis à ce stade-là, tout ce qu'on avait, c'était McConaughey qui pontifiait là, sur la place publique, comme quoi, ben peut-être qu'il se lancerait, puis il pensait à ça sérieusement. Là, ce qui a changé dans les 48 dernières heures, c'est qu'on a un sondage qui est paru. Et c'est pas un sondage bidon, je tiens à le dire d'emblée, là. Ça a été commandité par le Dallas Morning News, qui est un des plus importants quotidiens à la grandeur du Texas et par l'Université du Texas. Et ce sondage-là le met, attachez votre truc, 12 points en avance sur le gouverneur sortant qui va briguer un troisième mandat l'an prochain. Puis là, avant d'aller plus loin, peut-être que vous demandez, oh, ben, justement, on a testé McConaughey comme démocrate ou comme républicain.
Ouais.
Et c'est là la beauté de la chose. La réponse, c'est ni un ni l'autre. On l'a testé comme candidat indépendant, affilié à aucun des deux partis majeurs. Et il commencerait, ça ne veut pas dire qu'il finirait cette course-là, ça ne veut pas dire qu'il se lancerait, mais il commencerait, s'il se lance, largement en avance comme candidat indépendant.
À suivre, ça va être intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Raphaël. On s'en parle peut-être d'ici la fin de la semaine.
Avec plaisir.
Bye-bye. Raphaël Jacob, donc notre expert en politique américaine. Donc, s'il y a quelque chose qui sort dans le dossier Chauvin, évidemment qu'on va vous tenir au courant parce que c'est une décision qui est très, 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 très attendu. Ça, c'est des situations où j'aimerais ça être dans une mouche pour être dans la salle des délibérations, pour voir un peu comment ça se passe, les discussions,
et
etc.
Le juge a beau leur avoir dit, vous devez faire abstraction de votre opinion, ce que vous avez entendu dans les médias, etc., mais ils peuvent pas faire abstraction de la sensibilité de la décision qu'ils ont à prendre.
Mais non, là. Ça reste des êtres humains.
Bien de ce qui se passe à l'extérieur, dans les rues, la ville qui est barricadée, les risques de débordement, ça doit être quelque chose.
Puis des fois, aux États-Unis, il y a des jurés qui font des entrevues après, parce qu'au Québec, tu vois jamais ça. Je pense que les lois sont très contraignantes là-dessus, mais aux États-Unis, il arrive que des jurés vont aller faire une entrevue sur certaines émissions de télé. Donc, à suivre ce qui se passe avec Derek Chauvin. On passe à notre ami Nico qui est là avec nous. As-tu quelque chose à nous raconter ce matin, Nico?
Oui, est-ce que quand votre blonde ou votre mère vous dit « je veux rien », t'as pas besoin de rien m'acheter pour la fête des mères.
C'est un piège.
Oui, ou la Saint-Valentin, ou sa fête, vous l'écoutez.
Vous devez entendre l'alarme quand ça dit ça, là.
Ouais, 88% des hommes n'écoutent pas cette recommandation piégée de leur conjointe ou de leur mère. Et vous faites bien parce que 63% des femmes qui disent ça s'attendent quand même.
Ben oui, mais au-delà de ça, là, tu sais, j'ai le goût de vous dire, les gars, foutez-vous de ce que votre blonde ou votre mère va vous dire là-dessus. Votre blonde, c'est la mère de vos enfants. Peu importe ce qu'elle pense, faut que vous ayez une attention pour votre blonde aussi, puis votre mère, là.
Ça te dépend.
Comprends-tu? Peu importe ce que...
Comment ça
ben, moi, je pense pas, là. Si t'es un bon conjoint, puis t'aimes ta blonde.
J'ai une exception. Quand, puis là, tu parles de fête des mères, mais ça peut être aussi les fêtes en général.
Oui, exact.
Ça, moi, ma blonde et moi, ça nous est arrivé par le passé de dire, mettons, il y a un achat qu'on envisage, là, pour l'extérieur, pour la maison, quelque chose de même. de se dire, ouais, tu sais, c'est sûr, OK, ouais, faut dépenser. Regarde, on l'achète, là, mais à faire des mères, à faire des pères, là, on considère qu'on s'est fait ce cadeau-là ensemble, puis c'est ça le cadeau.
J'en marque pas.
Ça, c'est déjà arrivé, puis on le respecte un et l'autre. Mais sinon, tu sais, mettons les fleurs à Saint-Valentin, de pas donner de fleurs à Saint-Valentin ou à faire des mères, tu sais. Ben là, on a beau me dire à chaque année, oh, pas besoin de m'acheter des fleurs.
Je vais aller à l'encontre de toi. Je vais complètement à l'encontre de toi, les gars. Écoutez pas ça. Même si vous payez un cadeau utile, là, pour votre. Non, non. À la fête des mères, vous achetez quand même un cadeau à votre blonde. Malgré les ententes, malgré ci, malgré ça. Vous devez ça à votre blonde. Moi, je trouve.
Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, aussi, il faut que les enfants prennent le relais, là. À quel âge, d'ailleurs, c'est les enfants qui. Tu sais, parce que la fête des mères, là.
Ouais.
Ta conjointe, c'est pas elle, ta mère, là. C'est celle qui t'a mis au monde.
Ouais, mais les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je veux dire, ils font une carte à l'école. Puis
c'est ça, mais à quel âge tu commences? Parce qu'à un moment donné, moi, ma soeur et moi, on a commencé à acheter nous autres mêmes les cadeaux pour ma mère, mais je me demande si à partir de quel âge.
Mais tu peux pas vraiment demander à un enfant de 8, 9, 10 ans d'avoir une vraie reconnaissance envers ce que sa mère fait pour lui ou elle, là. C'est plus tard après ça que tu réalises. Fait partie de l'enfance de pas trop réaliser ce que
à 14-15 ans, il est temps que tu sois capable d'aller faire un petit tour au magasin pour acheter un cadeau à ta mère. Là.
Oui, mais souvent 14-15 ans.
Et à ton père, à la fête des pères en passant.
Tu réalises pas non plus encore ce que tes parents font pour toi à cet âge. C'est plus tard que souvent que tu réalises ça. Faut pas que les parents soient choqués sur leur enfant de 10 ans, 11 ans ou même 15 ans. Pense pas eux autres à la fête des pères ou des mères. Gérez-vous, les parents, là. Ils vont vous remercier plus tard. C'est plus tard que tu réalises avec du recul.
Ouais, mais l'autre parent doit aider pour toi. Les enfants, tu sais.
Oui, hey, mais ça vient du parent.
Mères, on va aller acheter quelque chose.
Ça vient
d'après
du
moi, il y a une tradition qui se fait un moment donné.
Oui.
Le parent va avec ses enfants acheter quelque chose.
Oui, mais c'est ça.
Il fait participer. Puis là, un modèle à 15 ans, tu dis, tu vas payer puis tu vas y aller.
Mais c'est pas la pensée de l'enfant. C'est l'autre parent qui, tu sais, qui rentre ça dans la tête un peu, si tu veux, là.
T'sais. Oui.
Faut pas s'attendre comme parent. Moi, je m'attends pas à ce que mon enfant soit hyper reconnaissant de ce que je fais pour lui à la fête des pères. Il va me faire une carte, puis là, bon. Mais c'est normal qu'il vive sa vie, puis il me remerciera plus tard quand il aura 20-25 ans. Là. C'est plus comme ça que je le vois. Bref, c'est quand c'est la fête des mères? Pas de souper, hein?
Au mois de mai, là.
Ça va être avec pas de souper encore, pas de
rassemblement. On pourra l'acheter du homard.
C'est toi qui es supposé souper avec, là.
Ouais.
C'est
ça?
Ouais,
c'était un petit peu plus compliqué.
Ça va être l'objet
voilà.
D'un point de presse sûrement dans la semaine avant.
La fête des mères, la gestion de la fête des mères, exactement ça.
Écoutez,
ou sinon gérez-vous vous-même.
C'est pas le temps.
Ouais.
Allez voir votre mère.
10h56, c'est Trudeau Landry. Merci d'être là.